Chapitre 3. Raphaël cultive le détachement. Il était tard, mais Mona ne trouvait pas le sommeil. Irrégulier et chaotique, un brouhaha venu de la cuisine la tenait en éveil. Quelques secondes après qu'un choc plus distinct se fût produit, elle entendit la voix sèche de sa mère traverser les murs. « Mais bon sang, Paul, ça devient impossible !» Mona se faufila hors de son lit et glissa un regard dans le maigre interstice de la porte entrebâillée. Camille venait de retrouver son époux avachi sur la nappe, un verre dans la main droite, avec autour de sa tête, comme soufflé par une bourrasque, des feuilles pleines de colonnes et de chiffres. Elle avait été alertée par le bruit, celui d'une bouteille qui avait lourdement percuté le sol après avoir roulé sur la table. Au moins, à la brocante, Paul pouvait les aligner sur son hérisson en acier rouillé sans qu'elle tombe ni se fracasse. Et Camille lui en voulut. Au lieu de lui demander de l'aide, il s'était étourdi jusqu'à l'ivresse. Ce n'était pas l'angoisse de la faillite, ni les menaces de ses créanciers, ni même une bagarre avec les huissiers qui poussaient régulièrement Paul à fuir dans l'alcool. Seul le hantait vraiment l'idée qu'en perdant sa boutique, où Mona avait tant joué, tant rêvé, il perdrait le peu de respect qu'il pensait inspirer à sa fille. Si Camille était une battante, et Henri Villemain un grand homme, lui, Paul, si fier d'être le père de Mona, ne leur arrivait pas à la cheville, il en était persuadé. Que serait-ce quand il devrait quitter sa brocante, étranglé par les dettes, et qu'il n'aurait même plus ce théâtre des songes à offrir en guise d'illusion? Camille rassembla les papiers épars. Quand Mona, tapie dans l'ombre, comme en apnée, vit que sa mère s'apprêtait à traîner son père jusqu'à son lit, elle courut vers le sien d'un pas feutré. Au matin, la fillette en était déjà à sa deuxième tasse de chocolat quand son père la rejoignit. Elle vit ses traits tirés et devina, derrière le baiser qu'il posa sur son front, une inquiétude mal dissimulée. Elle demanda alors à son père comment il allait, et cela lui coupa le souffle. Car il y a quelque chose de singulier, et même de détonnant à ce qu'un enfant demande à un adulte « Comment tu vas ?» C'est une attention qui ne vient qu'avec l'âge, une fois que s'est dissipé le fond d'égoïsme viscéral de la prime jeunesse. Et mieux encore, loin de s'imprégner de son humeur maussade à lui, Mona souriait continuellement en le regardant. Alors ses traits tirés, son ébriété mal encaissée, ses doutes et ses peines s'effacèrent devant la petite mine réjouie de sa fille, qui exprimait tranquillement une bienveillance infinie. Si bien qu'au bout de quelques minutes, sans parler, il lui renvoya enfin la question qu'il aurait dû poser de son propre chef. « Et dis-moi, ma chérie, toi, comment vas-tu ? » ?»«
Très bien, papa. C'est mercredi. »
Henri remarqua en conduisant Mona à travers le musée pour la troisième fois qu'elle avait davantage posé son regard sur les sculptures et tableaux qui rythmaient le parcours. Et même, à maintes reprises, il sentit son pas ralentir, sa main se détacher légèrement de la sienne, comme si sa curiosité avait été aimantée par quelque chose. C'était plaisant pour lui qui cherchait à faire pénétrer en elle ce que le monde a produit de plus profond et de plus beau. Cela signifiait qu'elle se sentait stimulée plutôt que gagnée par la lassitude. Mais il fallait se tenir au contrat moral. Une œuvre par semaine, sans laisser une concurrente en parasiter la portée. Ce n'était pas simple, car la grande galerie du musée, qui servait à l'origine de liaison entre le palais du Louvre et les Tuileries, était devenue la plus vaste salle d'exposition de la planète. Malgré son 1,20 m de hauteur, le tableau du jour ne dégageait rien de spectaculaire. Il brillait au contraire par une tempérance discrète, une sorte d'équilibre tout en retenue. Dans un cadre champêtre, au milieu d'un parterre d'herbes et de quelques fleurs un peu jaunies, une femme se tenait assise sur une grosse pierre qu'on distinguait à peine. Elle occupait majestueusement le centre du tableau, vêtue d'une robe décolletée rouge vif bordée de noir. Une seule manche, celle de gauche, apparaissait et irradiait d'un jaune satiné qui faisait écho à la chevelure, rassemblée en un chignon noué. L'autre était recouverte, de même que les cuisses, par un ample manteau bleu. Le visage de trois quarts, elle échangeait un regard sur sa droite avec un bambin qui la flanquait, debout, nu et blond. Il avait environ 3 ans et avait glissé sa main gauche dans celle de la jeune femme, mais semblait vouloir se saisir du livre qu'elle gardait calé contre sa jambe et dont on n'apercevait que la tranche dorée. Accroupi juste au-dessous de l'ouvrage, un autre bambin d'un âge semblable et vêtu quant à lui d'une tunique de fortune, portait sur l'épaule une croix haute comme lui, composée de 2 maigres tiges de bois. Il était de profil et observait avec beaucoup d'intensité le garçonnet qui lui faisait face. Les trois figures étaient surmontées d'un halo lumineux. Plus loin, à l'arrière-plan, se dressaient des arbres très fins ainsi qu'un village dont on voyait le fier clocher. Et plus loin encore, il y avait un lac bordé de petites montagnes vertes et grises, sous une voûte céleste parcourue de nuages et traitée en un dégradé de bleu, sombre au sommet du tableau et clair, presque blanc, à la ligne d'horizon, laquelle passait au niveau de la poitrine de la jeune femme. Le tout s'inscrivait dans une perspective impeccablement construite. Mona avait davantage d'éléments, davantage de détails à saisir que lors de ses 2 précédentes expériences. Mais, curieusement, elle y parvenait moins bien, et son attention se relâcha au bout de 5 minutes seulement. 5, pas plus, qui lui avaient déjà paru bien longues. « Nous n'avons vraiment plus les yeux pour regarder Raphaël », songea alors Henri, sans reprocher à sa petite fille de n'avoir pu conserver plus longuement sa concentration en alerte. L'époque, si férue de ce qu'elle appelle bêtement « les ruptures », ne peut que peiner devant l'artiste de l'harmonie parfaite, de l'équilibre infaillible et des justes proportions. Le vieil homme chassa cependant la raideur agacée qui lui avait saisi l'esprit pour évoquer le tableau. « Cela ne t'a pas plu, Mona ?»«
Si, si, mais c'est moins amusant que la Joconde, je trouve. »«
La Joconde ne t'avait pas amusé d'emblée la semaine dernière, rappelle-toi. »«
Oui, mais... Oh, tu vois ce que je veux dire, Dadé.
Je crois que je vois, mais dis-le quand même.
Eh bien, dans la Joconde, il se passe quelque chose. Ici, c'est tout glacé. C'est comme pendant le cours de mathématiques avec la maîtresse, et que j'attends que Diego dise une bêtise.
Et là, la bêtise ne vient pas, c'est cela?
Tu peux toujours en dire une, Dadé.
Non, Mona, ce n'est pas encore l'heure. Et en plus, ce que tu viens de me dire, toi, l'expression de ton ennui n'est pas du tout une bêtise, justement. Parce que le peintre que tu as devant les yeux, qui était italien comme Botticelli et Léonard de Vinci, et qui s'appelait Raphaël, ne jurait que par la perfection absolue, et estimait qu'il ne devait jamais y avoir le moindre écart, la moindre surprise, qui vienne perturber l'équilibre de la composition, de la ligne, des couleurs.
Il mettait combien de temps à faire tout ça?
C'était long, très long.
Mais il n'était pas seul, car à l'époque, au tout début du XVIe siècle, il fallait tout faire, et cela nécessitait une véritable petite équipe.
Autour du maître qui peignait et dessinait, et encore il ne peignait pas toujours tout, il se concentrait parfois sur les figures humaines pour abandonner à ses assistants les paysages ou des détails moins nobles qu'un visage, des petites mains préparaient le matériel, broyaient les pigments, posaient les enduits. Et comme Raphaël était devenu très jeune, une grande vedette de son temps, que les marchands et les banquiers de Florence adoraient, il put développer un atelier très puissant. À l'heure où il exécutait ce tableau, le pape en personne, Jules II, s'acheta ses services, car il voulait donner à Rome et au Vatican une extraordinaire envergure artistique. Raphaël, qui n'avait que 23 ans, répondit présent et travailla comme un forcené avec 10, 20, 50 collaborateurs. Il engageait et formait les meilleurs, les considérait comme des frères ou des fils. Et puis, il expérimentait toutes les recettes possibles pour obtenir ses tons nacrés et ses effets réfléchissants. Il réalisait d'immenses fresques, des tapisseries, faisait graver ses tableaux pour en multiplier les images et les diffuser. Avec lui, l'art de peindre, que la société de l'époque voyait comme une simple tâche manuelle, acquit une dimension supérieure. Raphaël devint un prince parmi les princes. Quand il mourut, le jour de ses 37 ans, fauché par un accès de fièvre, conséquence, selon la légende, de son amour passionné pour une femme, il était immensément riche. 16 000 ducats, une fortune. Papa dit que plus on est riche, moins on est gentil. Et il ajoute qu'il est très gentil, lui, s'esclava-t-elle. Il faut bien des exceptions dans l'existence, Mona. Sinon, elle serait un peu lassante. Raphaël était un homme riche, mais infiniment bon, semble-t-il. Quelques années après sa disparition, quelqu'un de très important, Giorgio Vasari, entreprit d'écrire sur tous les maîtres de la Renaissance. Il appela son recueil « Les Vite, les Vies ». On lui doit bon nombre des histoires que j'ai relatées au sujet de Botticelli et de Vinci, et beaucoup aussi à propos de Raphaël. Vasari dit notamment de lui qu'il fédérait tout le monde grâce à son charme, à sa bonté, à sa générosité. Non seulement les êtres humains l'aimaient et éprouvaient à son contact apaisement et concorde, mais les animaux aussi venaient à lui, comme dans le mythe d'Orphée. Orphée ? Est-ce que tu m'en as déjà parlé ? Ne t'inquiète pas, Mona, je te parlerai d'Orphée une prochaine fois. Regarde bien maintenant. Avec Botticelli et Vinci, je t'ai montré des tableaux qu'on qualifie de profanes, c'est-à-dire qu'ils ne tirent pas leur sujet de l'histoire sainte. Ici, c'est différent. La peinture était le plus souvent religieuse à la Renaissance et se destinait à des chapelles dans les églises pour diffuser la foi et valoriser le message catholique. Ici, les trois personnages sont des personnages sacrés. Les reconnais-tu ?
Je dirais Marie et Jésus.
Mais il a une drôle d'allure, celui qui ressemble à un petit sauvage. Il ressemble à un petit sauvage parce que c'est Jean-Baptiste, un prophète qui annonçait la venue du Christ et qui prêchait dans le désert de Judée. C'est pour cela que les peintres le représentent dans une tenue si simple. Comme tu le vois, il tient une croix. Tu sais pourquoi ?
C'est la croix de Jésus, ça ?
Oui. C'est une allusion à la croix sur laquelle Jésus sera exécuté. Il est là, sur la gauche. Il est encore enfant et cherche à se saisir du livre que tient sa mère, la Vierge Marie. C'est très certainement l'Évangile qui annonce aux chrétiens à la fois la bonne nouvelle, celle du salut du monde par le sacrifice de Jésus, et un moment terrible, épouvantable, la mort de Jésus dans d'atroces souffrances, sous les yeux de Marie désespérée et impuissante. C'est pour cela qu'elle porte du rouge, le rouge du sang, qui se mêle au bleu de son manteau, le bleu du ciel. Mona fronça les sourcils. Elle peinait à comprendre ce mélange étrange entre cette promesse de violence, comment une mère pouvait-elle assister à la mise à mort de son enfant ? Cela lui semblait odieux, et la douceur de la scène. Henri vit son trouble et la laissa méditer un très long instant, car elle reprit son examen approfondi du tableau. « Mais alors, Dadé, si sa mère sait déjà qu'il va mourir, pourquoi sourit-elle » demanda-t-elle avec une espèce de consternation. « Ce ne sont que des symboles, Mona. Ce n'est pas la vérité. Et si la Vierge a vraiment existé, soyons certains qu'elle ne souriait pas en se disant que son enfant, 30 ans après ces moments de tendresse, mourrait cloué sur une croix. Le livre annonce sa crucifixion, et le petit Jésus, en cherchant à s'emparer de l'objet, va symboliquement au-devant de son destin. Mais ce que nous montre Raphaël, c'est que face au destin, il faut cultiver le détachement.
Le détachement ? C'est quoi ça ? C'est l'inverse de quand on s'attache ? C'est le contraire d'aimer, alors ?
Non, Mona, ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt une qualité qui consiste à ne pas être l'esclave de ses émotions et à savoir les tenir à une distance respectable. Vois-tu, Raphaël avait beau être un prince parmi les princes, il conservait à l'égard de sa renommée ce détachement, en demeurant simple, affable, aimable. Ses tableaux exigeaient un labeur éprouvant. Ils sont pourtant d'une beauté qui donne le sentiment d'une facilité insolente. De même, face à la plus redoutable des destinées, la mort d'un enfant sur une croix dont la part de gloire et la part de terreur sont indémêlables, prévaut ce que les Italiens appelaient alors la sprezzatura. La sprezzatura, c'est la désinvolture des courtisans, qui consiste en société à ne jamais se montrer affecté en aucune circonstance, ni bonne ni mauvaise. Ce détachement, Mona, ne signifie pas qu'on ne ressent rien, mais il permet de préserver la justesse, la tempérance, l'élégance. Il permet de ménager ce que certains appellent la grâce. Mona se sentait un peu confuse, car l'explication lui semblait opaque en bien des points. Pourtant, la leçon était acquise. Elle l'était grâce aux bribes qu'elle avait saisies. Elle l'était par l'énergie bienveillante de son grand-père et son obstination à lui parler en adulte. Mona, qui tout d'abord n'avait pas apprécié l'œuvre, la savourait dorénavant. Mais cette fois, elle ne prit pas la main de Dadé pour quitter le musée sur le champ. Elle continua à regarder cette sainte famille, et notamment cette mère, cette belle jardinière, ainsi qu'on la surnomma, si merveilleusement calme et lumineuse sur son parterre de fleurs, si attentive alors que se profilait d'obscurs cataclysmes. Et puis elle confia, en riant de son propre bon mot, « C'est difficile de s'en détacher.